Bonjour. Bienvenue sur la vidéographie dessinée pour apprendre.
PremiumBeat.com.
Le concept théorique.
Le dessin pédagogique est une production qui est générée au moins en partie, voire entièrement, par l'apprenant. Le dessin pédagogique peut être considéré comme étant l'objectif à atteindre dans le cadre de la communication de l'information. Pensons par exemple à des transmissions entre scientifiques dans le milieu de la recherche, mais il peut également être considéré comme étant un moyen permettant de construire des connaissances ou encore d'évaluer des apprentissages.
Le dessin développe le sens de l'observation, la capacité à faire le lien avec l'aspect théorique. Et puis, d'un point de vue de la mémorisation, c'est très important, puisqu'il y a deux canaux qui sont activés, le canal visuel et le canal kinesthésique. Donc, le dessin en sciences, qui se représente sous différentes formes, présente des intérêts, puisqu'il va permettre de rendre l'invisible visible. Par exemple, les cellules, qui sont des éléments macroscopiques, peuvent être présentés grâce à des schémas. Ça va permettre aussi de rendre le complexe simple. Donc là, l'organe, le cœur, c'est un élément qui est très complexe. Ça va pouvoir être simplifié grâce au dessin. Il y a aussi des intérêts au niveau pédagogique, puisque le dessin est un outil de communication. C'est aussi un outil de réflexion. Donc du coup, ça va permettre d'améliorer les capacités d'observation et aussi d'améliorer la motivation.
Les objectifs qui peuvent être.
L'un est dit représentatif, c'est-à-dire qu'il est fidèle à la forme de ce qui est observé, et l'autre est dit abstrait, plus fidèle à l'idée ou la notion de ce qui est observé. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin issu du texte de nos deux auteurs, la manière de représenter un loup peut s'étendre du plus représentatif au plus abstrait. D'autre part, dessiner dans un but pédagogique peut poursuivre deux buts différents. On peut demander à un apprenant de dessiner dans un but dit formatif, où le dessin créé va permettre de voir les connaissances qu'il est en train de se construire, ou encore la progression de sa compréhension sur un sujet. Cette carte même est un exemple de dessin formatif, puisqu'en représentant sous forme de dessin la matrice de Quillin et Thomas, j'ai pu comprendre le concept qu'ils ont développé. On peut demander d'autre part à l'apprenant de dessiner dans un but sommatif, où le dessin permet de dresser un bilan des connaissances et compétences qu'il a acquises. Ce but est principalement destiné à l'évaluation. La combinaison de ces deux formes de dessin et de ces deux buts conduit à une matrice de quatre types de dessins, avec chacun une utilité différente envers l'apprenant.
Les objectifs qui peuvent préparer.
Le premier est le dessin formatif représentatif, soit un dessin fidèle à une observation et ayant pour fonction de construire les acquis de l'apprenant. Ce type de dessin a pour fonction de renforcer les capacités d'observation de l'apprenant. Le second est le dessin formatif abstrait, soit un type de dessin fidèle à une idée de ce que l'apprenant doit retranscrire et ayant pour fonction de construire ses acquis. Il lui permet de construire ses propres connaissances, de l'aider à mémoriser un contenu pédagogique donné, de connecter différents concepts et d'être conscient de son propre apprentissage. Le troisième est le sommatif représentatif. C'est un type de dessin ayant pour but d'évaluer les acquis de l'apprenant à travers un dessin fidèle à un phénomène retranscrit. L'apprenant peut ainsi communiquer et être évalué sur ce qu'il communique de ses acquis. Le quatrième et dernier type de dessin est le sommatif abstrait, soit un dessin ayant pour but d'évaluer les acquis de l'apprenant à travers un dessin fidèle à la représentation qu'il se fait d'une idée ou d'une observation. Ce dernier type permet à l'apprenant de réveiller son raisonnement, sa logique et de résoudre des problèmes ainsi que de mobiliser ses acquis pour partager cette logique.
Les différents types de dessins.
Le dessin pédagogique peut permettre de représenter différentes choses, soit des structures, pensons par exemple à un dessin anatomique, soit des processus, par exemple un dessin qui représente un processus physiologique tel que la respiration ou encore la circulation sanguine, soit des relations comme c'est le cas pour les cartes conceptuelles. Ces divers types de représentations peuvent varier selon le focus dans un continuum allant d'une représentation très détaillée à une représentation plus globale. Le dessin varie également selon l'intégration du texte dans un continuum allant d'un dessin simple à des dessins avec des annotations. Et enfin, les dessins peuvent varier selon le degré de représentativité dans un continuum allant de l'abstrait à un dessin beaucoup plus représentatif de la réalité.
Qu'est-ce que le dessin en sciences ? Ce sont des représentations abstraites, des modèles visuels. Donc, peut-être le dessin d'observation, les croquis, les schémas, ou bien encore les diagrammes.
Les limites.
Selon la théorie de la charge cognitive, l'apport du dessin pour les apprentissages peut être limité et dépend surtout de l'expérience de l'apprenant avec les dessins et de sa confiance dans sa capacité à dessiner. Cela signifie que le dessin va moins offrir de bénéfices en termes d'apprentissage pour les individus qui ont peu l'habitude de dessiner. Ceci est dû au fait que l'activité visuomotrice va demander à ces individus davantage de ressources cognitives qui ne pourront pas être allouées au processus de création du modèle interne. Au contraire, les individus qui ont plus l'habitude de dessiner pourront alors concentrer toutes leurs ressources cognitives sur l'activité de fond plutôt que sur leurs habiletés visuomotrices.
Les avantages au niveau cognitif.
Dans le cadre de construction des connaissances, certains processus cognitifs sont mis en œuvre. L'élaboration d'un dessin pédagogique engendre un processus au cours duquel il y a création d'un modèle mental en mémoire de travail par le biais de trois tâches cognitives. Tout d'abord, il y a le processus de sélection de l'information qui se fait sur la base du matériel qui est présenté à l'apprenant et également des connaissances préalables de l'apprenant. Ensuite, l'apprenant va organiser ses informations et les distinguer selon qu'il s'agisse d'informations visuelles ou des informations de nature verbale. Une fois les informations sélectionnées et organisées, enfin a lieu le processus d'intégration. Ce dernier permet la création d'un modèle interne qui, à son tour, permet de générer le modèle externe, qui est le dessin. En retour, la conception du modèle externe peut parfois permettre de revenir sur le modèle interne.
Comment améliorer l'apprentissage du dessin ?
Ceci va passer par différents éléments. Donc, déjà, il va avoir l'affect d'intervenir de façon à encourager les élèves, et puis améliorer les attitudes des élèves vers le dessin, et puis également améliorer la motivation. Ceci, on va pouvoir travailler sur les différentes attitudes. Donc il y a l'attitude du fait que l'élève aime ou n'aime pas. Il y a aussi les valeurs. Alors l'élève va considérer que soit c'est important, soit c'est quelconque. Donc là, l'enseignant doit intervenir et dire « les modèles sont importants pour apprendre et faire des sciences ». Il y a aussi le fait que l'élève va avoir plus ou moins de difficultés à réaliser un dessin. Donc ça va être à l'enseignant de rassurer l'élève en lui disant « vous n'avez pas besoin d'être un artiste pour faire un modèle ». Et puis il y a l'intérêt. Bon, l'élève va vouloir ou ne va pas vouloir faire le dessin. Donc là, l'enseignant va devoir pointer le fait qu'une fois que l'élève saura faire un modèle, il pourra l'utiliser à plusieurs reprises. Il y a aussi l'apprentissage qui va passer par le modèle du raisonnement. Donc là, ça va être défini par quatre tâches. Donc en dessinant le dessin, l'enseignant pourra dire il faudra que l'élève se concentre sur les efforts, sur les concepts importants. Après, il va falloir montrer quel est l'intérêt d'utiliser le modèle. Donc là, l'enseignant pourra dire « utilisez votre modèle pour prédire quelque chose ». Il va avoir l'évaluation du modèle aussi. Votre modèle, vous a-t-il permis de faire des prédictions exactes ? Et puis, réviser le modèle. Modifier votre modèle sur la base. Donc tout ça, ça va permettre d'améliorer l'apprentissage du dessin. Il y a aussi l'alphabétisation visuelle. Ça va passer par le langage visuel, c'est-à-dire voilà, il y a une flèche qui représente ceci. Ça va passer également par la pratique des représentations. Peut-être le fait d'utiliser un modèle, de dessiner pour représenter un élément, un organe, une fleur. Et puis, ce qui va être important aussi au niveau de l'alphabétisation visuelle, ça va être de pouvoir pratiquer avec un média. Donc là, utilisez votre tablette, par exemple, pour faire un dessin. Cette alphabétisation visuelle, elle va permettre d'acquérir des compétences à traduire l'information visuelle en verbal et vice-versa. Et puis, favoriser aussi le temps passé sur les concepts et les principes importants, plutôt que sur l'acte de dessiner.